This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone. Au microphone, Hans-George Ruprecht.
Aujourd'hui, nous vous présentons l'écrivain Daniel Polycan, lauréat de nombreux prix littéraires, dont l'œuvre de fiction est d'une importance capitale pour comprendre le versant franco-ontarien de la littérature d'expression française du Canada. Il vient de faire paraître, aux éditions du Boréal, un recueil de nouvelles intitulé « L'historien de rien ». Et il s'est fait interviewer tout récemment par notre correspondante, professeure de littérature française à l'Université d'Ottawa, Lucie Ott. Voici donc cet entretien.
C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Polycan, écrivain, traducteur littéraire, né à Ottawa, où il habite toujours, du moins une partie de l'année, depuis qu'il est à la retraite. Daniel Polycan est l'auteur de 6 romans depuis 1982, de 3 recueils de nouvelles, le plus récent dont nous parlerons aujourd'hui est l'historien de rien qui vient de paraître, d'un essai, le roman colonial, paru en anglais sous le titre In the Name of the Father, qui lui a valu en 2002 le prix Shaughnessy Cohen, qui couronne le meilleur ouvrage à caractère politique au Canada, alors que sa biographie de René Lévesque a été finaliste au prix littéraire Charles Taylor. La version anglaise de son roman La Kermesse, intitulée A Secret Between Us, était finaliste au prix Giller 2007, le prix littéraire le plus prestigieux au Canada anglais. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Daniel Polycan. Est-ce qu'on peut se tutoyer?
J'y compte.
Parfait. Ce livre-là m'a beaucoup interpellé puisque tu retournes à un genre que tu as beaucoup privilégié à une certaine époque, qui est le texte plus court. Je dirais pas nécessairement des nouvelles dans ce cas-ci, puisque les 3 textes qui composent le recueil sont beaucoup plus longs que des nouvelles, peut-être des novellas qu'on dirait en anglais, un genre entre le roman et la short story. Donc, ce genre que tu as privilégié et que tu as moins pratiqué ces dernières années. Ma première question porterait peut-être sur cette question plus générique dans ce livre-là, il y a 3 longs textes, mais qui sont entre la nouvelle et le roman, et qui racontent des histoires différentes, mais qui sont rattachées, j'y reviendrai un peu plus tard. Est-ce que ce sont les histoires qui déterminent le genre, la longueur du texte, ou est-ce que tu t'assis et tu dis, bon, je veux écrire des nouvelles?
Ça, c'est une vraie question littéraire. On rêve d'en voir à la radio, ça arrive jamais. Sauf que ça arrive ici à Carleton, et c'est étrange que ça arrive ici à Radio Carleton, parce que c'est ici que j'ai étudié pour la première fois la nouvellistique, avec mes maîtres de littérature comparée, comme Sarkany, Ruprecht et les autres. Et je me rappelle qu'on débattait de ces questions-là, mais avec feu, là. Qu'est-ce qui devient une novella, un roman court, etc. Et c'était fascinant à faire, mais finalement, ce qui me fascinait davantage, c'était d'en écrire moi-même des nouvelles. Et c'est là où je vais répondre à ta question. C'est la matière qui comporte en soi, qui va dicter le genre. Je me vois très mal disant, bon, très bien, maintenant, je vais composer une nouvelle, donc les codes du genre, les lois du genre sont ceci, cela. Non, c'est pas bon. On porte en soi une histoire et on la raconte. C'est d'ailleurs, on en avait discuté toi et moi une fois, c'est le drame de la littérature québécoise aujourd'hui. C'est la fameuse question que posent les scénaristes américains. Where's the story? Parce que souvent ce qui arrive, c'est que on raconte des trucs où on dit rien. Ou alors on fait de l'autofiction, on parle de soi, etc. Moi je me suis dit non, il faut trouver de quoi dire, une histoire. Et c'est là le plus long. C'est pas de l'écrire, c'est de la laisser venir en soi, de trouver son thème, son dit, ce qu'on va raconter. Et quand on l'a trouvé après plusieurs années de recherche, souvent, et des essais, et puis des tentatives, tout ça, tout à coup, ça coule de source. Et là, on a vraiment un texte là, dont on est content. Et dans ce cas-ci, on en a 3 nouvelles là, qu'on peut dire en français aussi, qui constituent un roman.
Justement, qui constitue un roman. Et j'ai écrit un jour un texte dans lequel je disais « Les romans de Daniel Polycan sont des nouvelles collées ensemble et ces recueils de nouvelles sont des nouvelles qui font des romans. » Et dans ce nouveau livre, il y a aussi un peu ça. Parce que, comme je disais, il y a trois nouvelles. La première raconte l'histoire d'une dame en Alberta. Elle est une jeune femme. Et on a toute sa vie jusqu'à sa mort, bien que la dernière partie de la nouvelle, de la nouvelle-là, est plus centrée sur son fils qui, lui, habite Ottawa. Dans la deuxième nouvelle, on a l'histoire d'un jeune garçon qui a à peu près 12 ans, qui vit à Ottawa, et c'est durant l'été, il s'ennuie avec ses amis dans les rues, et les trois amis décident d'aller à l'exposition du Canada central, et d'essayer de rentrer sans payer et de s'amuser toute la journée là. La dernière nouvelle raconte l'histoire d'un homme plus âgé qui, après avoir été avocat, avoir eu beaucoup de succès en affaires, a fait une dépression et se retrouve commis à la quincaillerie Joli Cœur sur la rue Beechwood. Il y a un lien entre ces trois histoires-là que je dévoilerai pas. On le découvre vraiment dans la dernière nouvelle et je veux laisser ça à nos auditeurs de le découvrir à la lecture. Mais ce lien-là fait en sorte que ces trois nouvelles constituent aussi un tout.
Oui.
Donc, pourquoi des romans fragmentés et des nouvelles réunies?
Parce que ça s'est imposé de soi. Quand j'ai soumis le manuscrit à mon éditeur, j'ai voici trois nouvelles. Il me répond, j'ai reçu ton roman, c'était très bien, blablabla, on va le publier. Et là, d'autres se sont mis à dire, ben oui, c'est un roman, ça. Là, c'était pas moi qui décidais, c'était le lecteur. Et puis, dans un sens, c'est vraiment la loi. C'est le texte nous appartient jusqu'au moment où on le publie. Et puis là, à ce moment-là, ben, il appartient à d'autres mondes. Là, c'est l'éditeur, bientôt les lecteurs. Alors, dans un sens, on le fait pas exprès. Et c'est là où ça devient de la littérature, justement. Parce que il y a plus de commandement ou d'ordre comme on peut en avoir quand on fait les essais, par exemple. Où là, on est vraiment seul maître à bord après Dieu. Dans ce cas-ci, on est le maître à bord jusqu'à ce que le navire parte pour le large. Et puis là, il faut tout lâcher. Mais ces formes-là, comme je te dis, se sont imposées. Puis, finalement, tu deviens le secrétaire de ton œuvre, si tu veux. T'es le scribe, là, de ce que tu portes en toi. Et puis, de là, ça part.
C'est aussi que, dans tes livres, tu racontes des histoires de vie, hein.
Ouais.
C'est toujours des personnages qui sont au cœur. Et ma théorie personnelle, c'est qu'un livre devient vraiment intéressant à lire au moment où il y a des personnages qui nous parlent, qui deviennent vivants pour nous. Et toi, tu racontes les histoires de ces personnages-là. C'est ce que tu fais dans l'Historien de rien. Mais les histoires de vie de tes personnages sont souvent extrêmement simples. Ils font partie du monde ordinaire, comme nous. Dans une certaine mesure, toi-même, n'es-tu pas un historien de rien?
Dans un sens, oui, parce que je me rappelle, j'avais un professeur ici à l'Université d'Ottawa, Roger Lemoine, qui disait, moi, ce que j'aime bien dans tes livres, c'est que tu travailles avec des personnages ordinaires. C'est beaucoup plus facile, dans un sens, de prendre des personnages hors du commun, tellement hors série que on s'attache à eux et puis on va les suivre. C'est plus facile de faire ça que de prendre quelqu'un dans la rue comme ça, un gars comme moi, par exemple, un retraité qui prend l'autobus et tout ça, et puis de faire de quoi avec lui. Mais ma conviction intime, c'est que nous avons tous une histoire, et ce ne sont pas des histoires de rien que nous portons en nous. Et l'art, ici, consiste à le faire ressortir, à le dire. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement Tchekhov. Il nous sort des personnages, mais qui sont d'une banalité à faire pleurer, et on retient d'eux quelque chose. C'est ça le défi pour moi, c'est de travailler à partir de rien, justement. Et dans un sens, oui, t'as raison, je suis l'historien de rien.
Et ces personnages-là, qui deviennent tellement attachants, là, qui sont des gens souvent tout simples, des fois c'est des fabulateurs incroyables, comme Roland Provençal, qui lui est pas très ordinaire, mais des gens très simples, deviennent extrêmement vivants sous ta plume. Ils ont toujours une nouvelle voix bien particulière. On les entend, on les voit, on a l'impression de véritablement les connaître. Et souvent, tes personnages sont aussi les narrateurs. C'est le cas dans certains de ces textes là, qui constituent ton dernier livre. Et je me demandais, est-ce que au départ, tu les vois, ces personnages-là, tu les entends, ils te viennent d'où? Des gens que tu as croisés, que tu as vus, entrevus un jour dans l'autobus, et tout à coup, tu commences à imaginer leur histoire. Comment est-ce qu'ils te viennent? Comment est-ce qu'ils naissent dans ton imaginaire?
Je peux te dire juste une chose ici, c'est que je n'ai pas de recette. Dans le cas de la dernière nouvelle, par exemple, c'est un fait vécu. J'entre de la quincaillerie, quelqu'un me dit, il y a pas de, on vend pas d'aliments pour écureuil noir ici. Ben, je regarde le gars, je le reconnais pas. Et puis, il s'est obligé de se présenter de nouveau. C'est un gars que j'avais vu depuis, ça faisait 20 ans, je l'avais pas vu. Et là, il avait changé, il avait perdu du poids, il avait plus de lunettes, il avait des cheveux teints et tout ça. Et puis, il m'a dit qu'il avait été avocat. Et puis, je le voyais sous son uniforme de commis de quincaillerie. Puis, avec un badge, avec un autre nom que celui que je lui connaissais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Plus tard, j'étais, 2 ans après, j'étais à Halifax. Et là, je lis un article d'une dame qui raconte comment elle et son mari sont tombés dans la pauvreté. Comment ils ont vécu une vie opulente. Le luxe, ils allaient en vacances en Provence. Ils allaient pas en Floride parce que ça faisait trop commun. Non, 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 eux, ils faisaient la belle vie. Et puis, ils étaient tombés dans la misère. Et misère, enfin, relative, mais quand même, c'était pas drôle. Et là, j'ai fermé le journal, j'ai dit, tiens, ça, c'est mon personnage de la quincaillerie. Et j'ai marié les deux. Dans d'autres cas, c'est l'invention pure. Le petit garçon, Alex, qui est mon narrateur jeune, ça, c'est une histoire totalement inventée parce que quand j'étais petit, je rêvais d'être délinquant moi-même parce que j'étais un garçon trop sage et trop banal. Et j'admirais beaucoup les délinquants, c'est cette histoire-là. Donc ça, c'est un souvenir d'enfance retravaillé. Et puis la première nouvelle, c'est vraiment le début d'une autobiographie imaginaire, mais avec du vrai monde que j'ai connu, entre autres. Donc c'est un mélange, il n'y a pas de recette. Je comprends qu'il y a des écrivains qui ont des recettes à eux, qui racontent toujours la même histoire, un peu comme chez Mordecai Richler, mais ça m'emmerde. Moi, j'aime pas travailler comme ça. Ça prend peut-être plus de temps à écrire, mais ça donne des résultats qui me plaisent davantage.
Est-ce que pour toi, la littérature, c'est justement de raconter des histoires de personnages? Tu sais, tu disais tantôt, on reproche souvent à la littérature de langue française, à la littérature québécoise, à la littérature française aussi, d'être des littératures extrêmement cérébrales, intellectuelles, où on réfléchit beaucoup sur des grandes questions, mais contrairement à la littérature de langue anglaise qui, elle, raconte des histoires. Est-ce que pour toi, c'est justement ça qui est au cœur de l'acte d'écriture, de raconter des histoires?
Moi, je me vois de plus en plus comme un romancier de théâtre. Donc, et quand on est au théâtre, ça prend des personnages, Vladimir, Estragon, des gens comme ça qui sont vrais, qui deviennent vrais. Et je les mets en scène, je les fais parler, je les laisse parler aussi. Et puis, j'arrange tout ça comme un metteur en scène qui serait quelqu'un du public, en fait, assez curieusement, qui n'a pas de métier, mais qui arrange la pièce comme il l'entend. J'admire beaucoup les romanciers poètes, les romanciers qui sont musiciens ou qui sont peintres. J'admire cette littérature française qui est cérébrale, mais étant un écrivain très métissé par ma formation, ma naissance et tout ça, j'aime aussi puiser dans les autres littératures qui m'ont formé. Mais plus j'avance, curieusement, moins je lis les autres, et plus j'écris. Alors qu'avançant, dans l'insécurité des débuts, hein, on se greffe sur certains talismans ou écrivains fétiches comme Kafka ou d'autres, dans mon cas, et là, maintenant, je m'en sens très éloigné. Je suis enfin devenu un vieux débutant, quelqu'un qui a du métier, mais qui en est vraiment au début de ses prochains livres.
Tes personnages, comme des personnages de théâtre, en fait, ont un style à eux, une façon de parler qui est très souvent typée. Et c'est souvent le plus grand plaisir, c'est d'entendre tes personnages parler dans les dialogues. Dans la première nouvelle de ce livre, il y a pas de dialogue. Il y a quelques paroles rapportées. Mais dans les deux autres nouvelles, tu reviens au dialogue. Et c'est un plaisir de lire tes dialogues parce que ils sont tellement vivants, etc. Est-ce que tu les lis à haute voix? Est-ce que tu les entends? Comment est-ce que tu fais pour rendre le caractère purement oral de tes personnages?
Réponse dans le même sens que tout à l'heure. Je suis romancier de théâtre. Avant d'écrire mes textes, je les joue. C'est-à-dire que je me mets dans la peau du personnage, puis je me donne la réplique. Et quand ça sonne bien, c'est un peu comme un musicien qui va vous dire si ça sonne juste ou pas. Là. Quand ça sonne comme il faut, ça veut dire que c'est bon. Et là, je peux imprimer, si on veut. Et c'est toujours comme ça que je travaille. Puis je m'assure toujours que ce soit authentique. Pas comment ça a été dit, mais comme ça devrait être entendu. Et en ce sens-là, j'écris beaucoup plus pour l'oreille que pour l'œil. Et ça m'est venu d'une expérience à la radio, où je m'étais entendu, puis je me disais, non, faudrait vraiment que j'écrive comme pour la radio, parce que quand on écrit pour la radio, il faut harponner son lecteur du premier coup, sinon on le manque et puis il s'en va, ou il se met à penser à autre chose et on le perd. Si on écrit pour la radio, c'est beaucoup plus exigeant, mais c'est beaucoup plus payant au sens où on garde son lecteur oblique auditeur.
Tu disais tantôt que t'aimes beaucoup te renouveler, il y a toujours des nouvelles découvertes dans l'écriture et t'abordes toujours des choses nouvelles. En même temps, t'aimes beaucoup faire des liens, souvent avec tes anciens livres, donc il y a souvent des personnages qui reviennent. C'est pas le cas, là, mais il y a des lieux qui reviennent, le quartier de la Côte-de-Sambre qui reviennent dans plusieurs de tes textes. Il y a aussi certaines thématiques qui sont récurrentes dans ton œuvre. Toutes les histoires de famille, qui sont souvent soit des histoires de couple, et notamment des histoires de couple malheureux, avec de séparation, etc., soit des histoires de relations entre parents-enfants, et on l'a aussi dans ce nouveau livre, particulièrement, dirait notre ami François Ouellette, entre les pères et les fils. Aussi, la question de la maladie et de la dépression qui revient fréquemment dans tes œuvres aussi. Est-ce que pour toi, les relations familiales, parlons de cette thématique-là, c'est une source inépuisable d'histoire?
Je parle souvent, oui, en effet, de ces relations-là, qui sont pas toujours familiales. Et ça me fascine. Par exemple, l'idée de peine d'amitié. On parle de peine d'amour, hein. Bon, ben, il y a des gens aussi qui ont des peines d'amitié et ça m'est arrivé. Et je connais plein de gens à qui ça arrive. Ça, quand on déborde tout à coup le cadre conventionnel, c'est là où ça me fascine. Puis c'est là où j'ai envie d'en parler. Donc, dans ce livre-là, oui, là, dans l'Historien de rien, il y a tous ces jeux-là. Mais j'aimerais revenir, moi, à une autre idée que tu viens de soulever. L'idée de la revenance, là. Les thèmes qui reviennent avec tout et tout. On avait eu cette discussion-là, toi et moi, une fois, et comme ça m'est arrivé souvent avec toi, j'ai perdu, parce que tu disais, oui, on se répète, c'est fatal et tout, puis je disais, non, pas moi. Eh ben non, maintenant, aujourd'hui, je suis obligé de baisser les bras, puis de dire qu'effectivement, il y a des trucs qui reviennent dans mes livres, et je n'y peux rien. En ce sens-là, c'est une autre capitulation, c'est pas la seule, parce que oui, je me rends compte que des fois, il y a des choses qui sont pas terminées, ou j'étais pas allé assez loin. Alors oui, je vais y revenir, puis oui, il y a des images même qui reviennent. Avant ça, je les gommais, maintenant je les laisse là. Je me dis, ben coudonc, c'est là pour une raison, et ce qui arrive toujours, c'est que ça revient, mais retravaillé d'une autre façon. Et à ce moment-là, le thème évolue, la langue évolue aussi chez moi. Et puis, on laisse courir, tout simplement. Ce qui n'est pas se répéter, au même titre que je mentionnais Mordecai Richler, ou Régent Ducharme, ou Michel Tremblay, où là, c'est désolant, c'est à pleurer des fois, comment. Il presse le citron, en fait. Moi, je vais pas faire ça. Je presse encore, mais je change de citron. Ça, je peux dire ça.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison. La réflexion va plus loin, les personnages ont une autre prise sur la thématique. Et tu as aussi raison pour les peines d'amitié. C'est très présent dans cet ouvrage-là, c'est présent dans d'autres livres. Déjà dans ton premier livre, dans Pascal, il y avait des relations d'amitié extrêmement fortes et des déceptions en amitié. Et c'est une thématique qu'on aborde peu, qui touche une peine que beaucoup de gens vivent. Et je pense que tu as le don aussi de voir ce que d'autres ne voient pas et qui sont au cœur des relations interpersonnelles. J'aimerais te poser une toute dernière question, parce que là, ben, moi, je l'ai lu, l'Historien de rien, je l'ai lu en version manuscrite. Donc là, je m'ennuie déjà. Quand le prochain?
Le prochain sort dans 2 ans. C'est un roman qui s'intitule Année, et j'ai pas peur de prendre des risques en disant qu'il va s'appeler comme ça. C'est un roman qui se passe au Nouveau-Brunswick, en Acadie, dans ma nouvelle patrie à temps partiel. Voilà.
Donc, Année, en Acadie. Un peu roman historique comme celui du Québec, L'Homme de paille, ou est-ce que c'est un genre tout à fait nouveau que tu vas aborder dans ce prochain roman?
Ici, je peux dire que j'ai réinventé le roman historique parce que ça se passe dans un temps révolu, mais qu'il y a rien, il y a aucun événement historique qui est abordé, absolument rien comme ça. Ça se passe autrefois. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis, les personnages, encore là, sont tout à fait imaginaires. J'ai jamais imaginé autant un livre que celui-là. Et c'est pour ça que ça demande plus de travail dans un sens, mais bon, ça ne me dérange pas. Et puis, je fais aussi une version anglaise parallèle, ce qui demande du temps, évidemment, mais bon, ça se passe bien.
Donc, pour donner un avant-goût à nos auditeurs, peux-tu nous lire le tout début de la première nouvelle qui s'appelle « La petite mère » ?
Très volontiers. Alors, voici. Je l'imagine avançant d'un pas leste dans la steppe canadienne, coiffée d'un petit chapeau fleuri et traînant une valise d'osier. Mantelet bleu azur, chemisier blanc à jabot, jupe de laine et bottillon noir à lacets. Élégance modeste que confirme son ombrelle fleurie au motif vaguement japonais. Elle se ferait un chemin dans les hautes herbes sans craindre les bouses de bison qu'elle repère toujours à temps. Elle est née dans ce pays et en connaît la terre par cœur. Il fait chaud, mais pas trop. Un temps idéal pour partir en voyage. Elle qui part pour quelque part, pour la première fois de sa vie. Mais la course lui donne chaud. Elle est déjà toute trempée sous ses vêtements et craint de sentir mauvais dans le train. Dans sa tête, elle demande au chef de gare si elle peut se rafraîchir dans son petit appartement de fonction. Il ne pourra pas lui refuser ça. La compagnie de chemin de fer a sûrement des bontés de ce genre pour les gens qui en sont à leurs premières aventures comme elle. Il paraît qu'il est gentil, ce chef de gare, et qu'il vient de l'un de ces pays d'Europe qu'elle rêve de voir. Elle lui demandera s'il a déjà été à Vienne, et si c'est vrai que c'est beau là-bas, plus beau qu'ici même, parce que justement, c'est là qu'elle va. Une longue route l'attend, Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, puis Toronto, Ottawa, Montréal, presque 2 semaines de train. De là, le paquebot qui va à Liverpool. Ensuite, le train pour Londres, la traversée de la Manche en bateau, et de nouveau le train, direction Paris, puis Vienne. 6 semaines en tout au minimum qu'elle a lu. Elle a hâte. Ce premier voyage a aussi l'âpre goût de l'exil. Dans son cœur, elle a décidé qu'elle partait pour toujours. Elle a passé toute sa vie ici, elle qui vient de fêter ses 26 ans. Depuis qu'elle sait lire, elle a avalé tous les magazines et journaux que les voyageurs laissaient traîner chez ses parents, quand ceux-ci faisaient à l'occasion métier d'hôtelier. Quand elle n'arrivait pas à défricher la langue de certains périodiques, elle se contentait d'en contempler les images des heures durant, tellement qu'elle finissait par se convaincre d'avoir compris le texte en s'appuyant sur quelques mots, ici et là, qui ressemblaient au français ou à l'anglais. Elle a ainsi imaginé les merveilles que recèlent Berlin, Prague, Varsovie et Bucarest. Parfois, elle demandait à sa mère de confirmer ses déductions et elle boudait quand la maman lui disait qu'elle s'était trompée. Sa maman savait, elle était de là-bas, d'une commune située près de Liège, en Belgique, et elle avait appris bien des choses avant de quitter son pays natal pour s'établir au Canada avec ses parents et la moitié du village. Le père de la jeune femme au chapeau fleuri était canadien, lui. Ses ancêtres étaient d'Europe, mais il n'y avait jamais mis les pieds et l'envie d'y aller ne lui était jamais passée par la tête. Il était né en Beauce, au Québec, près de la frontière américaine, et il était venu dans l'Ouest avec son régiment de voltigeurs à l'époque de la rébellion. À sa démobilisation, il avait obtenu une concession foncière du gouvernement et il s'était fait colon dans le nord de l'Alberta. Il avait travaillé la terre quelque temps, mais comme il avait surtout des dispositions pour le commerce, il avait fini par vendre sa concession pour ouvrir un magasin général. Quelques années plus tard, un groupe de colons belges s'était installé dans la région. Le jeune marchand général les avait aidés à maintes reprises. Il s'était ainsi lié avec une famille qui avait 3 filles à marier. Il avait demandé la main de la deuxième, la plus jolie des 3, qu'il disait toujours, et on la lui avait accordée sans peine, vu que les beaux partis étaient rares dans le coin. La jeune femme au chapeau fleuri avait été leur unique enfant. Son enfance avait été bien tranquille. Sa seule distraction lui était venue de l'école, où officiait une religieuse de France. La loi provinciale obligeait cette brave missionnaire à enseigner en anglais, mais elle n'en faisait qu'à sa tête et professait en français. Elle y était bien obligée, ses élèves ne parlaient pas d'autres langues à la maison et elle-même n'avait que des rudiments de la langue officielle de l'enseignement. Pour la visite annuelle de l'inspecteur, on s'arrangeait. Ce monsieur, un homme jeune, bachelier, dynamique, n'aimait pas les histoires et il avait l'intelligence d'annoncer sa visite longtemps à l'avance. Le jour de sa venue, la religieuse et les élèves faisaient semblant de parler anglais en classe. La comédie durait une petite heure et l'inspecteur, nullement dupe, rédigeait un rapport laudateur sur les progrès de la petite école à l'intention des autorités, qui étaient tout aussi complices que lui. Ce qui comptait pour tous, c'était qu'il y eût une école et qu'il n'y eût pas d'ennui avec les fanatiques. Le reste était sans importance.
Merci beaucoup, Daniel. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai très hâte que ton prochain livre sorte et qu'on ait l'occasion d'en parler aussi.
J'espère que tu me réinviteras. Merci.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.